VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Nouveau naufrage de migrants au large des côtes de la Libye aujourd'hui. Le capitaine Antonello De Renzi Sonino, porte-parole de l'opération SOFIA, la force navale européenne de lutte contre l'immigration clandestine, parle de 20 à 30 morts. Jacques Aristide.
C'est un avion luxembourgeois qui a donné l'alerte après avoir localisé une embarcation qui avait chaviré avec environ une centaine de migrants à l'eau ou accrochés à l'épave. Un autre appareil, espagnol, est arrivé sur place et a largué des kits de secours, deux vedettes des gardes-côtes italiens et un navire espagnol participant à l'opération Antipasseur se sont également rapprochés des migrants et en ont secouru plus de 80, d'après le capitaine De Renzi Sonino. Ce nouveau drame de l'immigration survient au lendemain d'une tragédie similaire au cours de laquelle 5 personnes ont trouvé la mort quand leur embarcation de fortune a chaviré, toujours au large des côtes libyennes. Des centaines de personnes sont tombées à la mer et 562 ont pu être sauvées par la marine italienne qui a publié des images saisissantes de cet événement.
Le sommet du G7, les grandes puissances industrialisées, est en cours à Ise-shima, dans le centre du Japon. Parmi les sujets déjà abordés, la protection des œuvres d'art menacées par le terrorisme. Le président français François Hollande a suggéré la tenue d'une conférence internationale à ce propos. Il préconise aussi la création d'un fonds dédié aux biens culturels en danger. Un aperçu des autres sujets au programme de la réunion avec Maëlys Eagle.
La faiblesse de la croissance mondiale occupera une place de choix pendant ce sommet du G7, qui doit également adopter un plan d'action contre le financement du terrorisme. Enfin, le thème de la migration et des réfugiés a été mis à l'ordre du jour à l'initiative de l'Allemagne.
À noter que le président américain Barack Obama fera une visite à Hiroshima après le sommet, une première pour un président américain dans cette ville bombardée à l'arme atomique par les États-Unis en 1945. Afrique maintenant, en RDC, la police a dispersé aujourd'hui à Kinshasa les quelques 5000 personnes manifestant en faveur du respect des délais constitutionnels pour la tenue de la présidentielle censée avoir lieu cette année. Parmi les leaders participant à la marche ce jeudi, Eve Bazaïba pour le mouvement de libération du Congo, MLC, et Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Dans l'est du pays, à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où la manifestation avait été interdite, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser avec violence des attroupements de jeunes ayant dressé des barricades sur la voie publique. Par contre, au sud Kivu voisin, la manifestation autorisée par le gouvernement local s'est déroulée dans le calme. Environ 2500 protestataires y ont participé. L'ONU présente en RDC par le biais de la MONUSCO suit de près la situation politique dans le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait appelé mercredi au calme et à la retenue à la veille des manifestations. Michel Joseph.
Selon son porte-parole, M. Ban est profondément préoccupé par les informations relatives aux tensions politiques grandissantes liées à l'incertitude qui persiste autour du processus électoral en RDC. Il appelle au strict respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à exprimer leurs opinions pacifiquement, y compris dans le cadre des manifestations prévues ce 26 mai. M. Ban invite aussi les acteurs politiques congolais à s'engager de manière constructive dans un dialogue politique visant à résoudre pacifiquement leurs divergences. Il les exhorte à coopérer avec le facilitateur du dialogue national inclusif de l'Union africaine, M. Edem Kodjo, et réitère le soutien de l'ONU aux efforts de celui-ci.
En Ouganda, 6 ans après le double attentat islamiste qui a fait 76 morts le 11 juillet 2010 à Kampala, le cerveau présumé de l'attaque a été reconnu coupable de terrorisme par un tribunal justement à Kampala. De nouveau, Maëlys Eagle.
Issa Louima est coupable du crime de terrorisme dont il est accusé, a déclaré le juge Alphonse Owinidolo devant la haute cour de la capitale ougandaise. Le 11 juillet 2010, des engins explosifs ravagent un bar et un restaurant de Kampala en pleine retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football. Bilan, 76 morts. Les Chebab avaient revendiqué l'attaque disant que c'était en représailles au déploiement en 2007 de troupes ougandaises en Somalie. Les 13 accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et 1 Tanzanien, ont tous plaidé non coupables. Leur procès avait été retardé après l'assassinat en mars 2015 de la procureure Joanne Cabezi. Elle avait été tuée par balle par des hommes en moto alors qu'elle rentrait en voiture chez elle avec ses 3 enfants. La semaine prochaine devrait se tenir une audience distincte sur les peines si les accusés sont reconnus coupables.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, l'ex-coalition Séléka qui avait renversé le président François Bozizé en mars 2013 avant de céder le pouvoir à la transition dirigée par Catherine Samba-Panza est aujourd'hui divisée en plusieurs factions de groupes politico-militaires dont certains continuent de commettre des exactions dans le centre et le nord du pays. Alors, quel regard porte-t-on sur cette ancienne alliance rebelle 3 ans après? La réponse de Dieu merci Lazare Njader Kangang, président du collectif 236 du kilomètre 5 à Bangui, au micro de Félix Yepassi Zembrou.
J'habite Bangui, particulièrement dans la contrée du kilomètre 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de la coalition Séléka que leur division interne? Il y a quelques jours, on entend des informations parties par là, il y a un semblant de coalition et autres. Bon, voilà tout ce qu'on a comme bride d'informations.
Mais peut-on dire que cette ex-coalition représente encore un poids dans le pays?
Pour répondre vraiment à cette question, il faudra avoir peut-être les instruments de mesure, des mesures pour juger de la représentativité d'une entité comme l'ex-coalition Séléka. Je suis très mal placé pour juger de leur représentativité. Mais à partir de la contrée dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire du kilomètre 5, eh ben, pour moi, la Séléka, bon, c'est un mot, c'est un nom, voilà. Mais ça n'empêche pas les Centrafricains de vaquer à leurs occupations. Ça n'empêche pas le kilomètre 5, par exemple, de vaquer à ses occupations et de vivre en paix. Voilà.
Oui, autre chose, Lazare Njader, que signifie pour vous le fait que cette ex-coalition ne soit pas représentée au gouvernement de Sarandji?
Vous savez, il y a eu les élections. Les nouvelles autorités sont en place et il appartient à ces nouvelles autorités-là de pouvoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la paix et la paix définitive puissent revenir en Centrafrique. Pour que cette paix revienne, eh ben, il faut discuter avec tous les protagonistes, du moins ceux qui ont des revendications à porter. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés au gouvernement? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés dans le cabinet présidentiel? Vraiment, je suis très mal placé pour, encore une fois, répondre à cette question, parce que je ne suis pas du côté de ceux qui dirigent. Donc, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Ben, nous écoutons, comme tout autre à la radio, que voilà, ils ont des revendications, ils veulent avoir leur place au gouvernement, ils veulent avoir leur place dans le cabinet présidentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne leur répond pas à cette préoccupation? Vraiment, je suis très mal placé pour répondre à cette question.
Cette coalition est-elle représentée au sein de la nouvelle Assemblée nationale?
En tant qu'entité ex-Séléka, moi, je n'ai pas entendu des députés élus qui siègent à l'Assemblée. Je n'ai pas entendu dire qu'un député se réclame de l'ex-coalition Séléka. Voilà, quelqu'un ne s'est pas présenté aux élections comme étant candidat de l'ex-coalition Séléka. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas un député à l'Assemblée qui répond de l'ex-coalition Séléka. Voilà ce que je puis vous dire.
Dieu merci, Lazare Njader Kangang, président du collectif 236 au kilomètre 5 à Bangui, en Centrafrique. En Côte d'Ivoire, affrontement entre étudiants et la police aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Selon Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, près de 1000 étudiants s'étaient rassemblés pour préparer un meeting à l'université quand ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les policiers. Les étudiants ont réagi en jetant des pierres, a ajouté Fulgence Assi, en invoquant un malentendu. Pas de blessés à signaler. Et puis au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche selon des résultats provisoires globaux publiés hier soir. Les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contention ouverte pour une semaine. Écoutez la réaction d'un militant du parti au pouvoir après le succès du MPP.
Franchement dit, c'est une joie pour le MPP. On compte beaucoup sur le peuple qui a renoué sa confiance à notre parti et plus précisément au président Roch Kabore pour qu'il puisse vraiment mener à bien le bateau burkinais.
Et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement levé les dernières sanctions pesant sur le Libéria 13 ans après la fin de la guerre civile dans le pays. Le régime de sanctions visait notamment à lutter contre le trafic de ressources naturelles et avait aussi gelé les avoirs de certains individus. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.